Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. » Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria « Béni sois-tu entre les femmes et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et Marie dit, « Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle.
Imaginez que vous êtes un habitant ou une habitante d'Israël, profondément croyant, au début du premier siècle de notre ère. Et donc vous vivez dans un pays sous occupation étrangère, romaine. Les conditions de vie sont difficiles et précaires. Mais vous connaissez les Écritures. Et vous savez que dans ces Écritures, plusieurs prophètes annoncent depuis des siècles que Dieu va intervenir dans le monde, il va intervenir dans l'histoire des hommes, dans ce monde sombre et déchiré. Même il va venir dans ce monde, laisse entendre certains de ces textes. Alors comment imaginez-vous cette venue ? Vous rêvez sans doute, si vous vous mettez à la place de cet Israélite du premier siècle, d'une intervention spectaculaire et visible aux yeux de tous. D'ailleurs, ça m'arrive à moi, par exemple, peut-être à d'autres aujourd'hui, de me dire qu'est-ce que ça serait bien si Dieu vraiment se faisait voir de tous, s'il y avait une intervention comme ça spectaculaire. Ce sera le cas un jour, d'ailleurs. Mais comme le prophète Ésaïe, plusieurs siècles plus tôt, on a envie de faire cette prière. « Seigneur, si seulement tu déchirais le ciel, si tu descendais Les montagnes crouleraient devant toi, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Et au début de l'évangile de Luc, on assiste bel et bien à une visite divine, une intervention directe du Seigneur, mais qui s'est passée, malgré le fait que cette visite était très attendue, elle s'est passée d'une manière totalement inattendue, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Ce soir, nous allons parler de Marie, nous avons beaucoup parlé d'elle, et c'est peut-être bien de préciser un peu les choses. Dans la tradition catholique romaine, Marie a été érigée en mère des croyants, femme sans péché, reine du ciel, et d'une certaine manière médiatrice entre Jésus-Christ et nous. Et dans le respect des convictions de chacun, je voudrais dire que la Bible n'enseigne rien de cela. Ce sont même des catholiques d'ailleurs le diraient, ce sont des traditions qui ont émergé plus tardivement. En tant que protestants évangéliques, nous plaçons la Bible au cœur de notre foi. Nous estimons que c'est elle et elle seule qui fait autorité pour ce que nous croyons. Mais il peut arriver que par réaction sans doute à ce que nous percevons comme une dérive du catholicisme, nous en arrivions à ne plus jamais parler de Marie, à ne pas parler d'elle du tout. Et c'est très dommage, et c'est même un manque de fidélité à la Bible, parce que Marie est un personnage important. Et elle a des choses précieuses à nous apprendre. Et ce soir, je voudrais attirer notre attention sur trois leçons que nous pouvons tirer de ce texte, et en particulier de la personne et de l'attitude de Marie. Alors, on passera un petit peu plus de temps sur le premier de ces trois points, mais je vous invite à voir donc un Dieu qui surprend tout d'abord, ensuite une grâce souveraine, et enfin un exemple de foi. Un Dieu. Et voilà, au cas où vous n'aviez pas noté, un Dieu qui surprend. Voilà. Il faut bien faire les choses, hein. Je ne saurais surtout pas que les gens ratent ce plan. Depuis des siècles, les prophètes annonçaient l'intervention de Dieu dans l'histoire. Ils annonçaient la venue d'un Messie, donc d'un roi, c'est-à-dire quand on dit un Messie, d'un roi tout-puissant, désigné par Dieu lui-même pour réconcilier le peuple avec Dieu, pour apporter la paix. Et même, selon certains textes de l'Ancien Testament, pour régner éternellement. Et je cite pour exemple un texte du prophète Ésaïe qui nous parle de ce Messie et qui le décrit ainsi. Conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. Et c'est un de ces textes où la venue du Messie semble se confondre mystérieusement avec l'intervention de Dieu lui-même. Et donc spontanément, on imagine une intervention puissante et spectaculaire. Mais voici ce que Luc nous écrit pour parler de cette intervention divine. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une jeune fille vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Le fait que Dieu envoie un messager céleste, un ange, annoncer la venue du Messie, ne nous surprend pas en soi, à partir du moment, bien sûr, où on croit en un Dieu qui règne non seulement sur l'univers visible, mais également sur une création invisible, sur des esprits serviteurs qu'on appelle les anges, tout simplement des messagers de Dieu, dont la Bible parle en toute sobriété. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est le reste. Et en fait, cette introduction, elle nous place devant quatre surprises, au moins. Mais je vais en citer quatre. Première surprise, l'ange est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Et là, si on s'attend à une intervention spectaculaire, ça commence mal. Pour un juif de l'époque, parler de Nazareth en Galilée, c'est un peu comme si on disait dans une ville de Corrèze appelée Tulle, ou dans une ville du Val d'Oise appelée Beson, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que l'ange de Dieu est bien allé faire à Nazareth ? C'était déjà Nazareth, c'est vraiment une petite ville sans renommée, dans une région, la Galilée, qui était un peu considérée comme une région de second rang, en raison du mélange des populations, avec un mélange de juifs et de non-juifs qui faisait que c'était un peu considéré comme l'Israël de seconde classe. Qu'est-ce que l'ange de Dieu est bien allé faire là-bas ? Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, lorsque un futur disciple de Jésus qui entend pour la première fois parler de Jésus, donc apprend qu'il vient de Nazareth, il se demande qu'est-ce qui peut bien venir de bon de Nazareth. Donc Dieu n'est pas intervenu avec fracas en plein Jérusalem, la capitale à la fois politique mais surtout spirituelle, mais dans un petit village à peine connu. Première surprise. Voici la deuxième. Je suis désolé, j'ai un peu de mal avec la zapette aujourd'hui. Versets 26-27, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. L'ange n'a pas été envoyé dans la famille royale de l'époque, la famille du roi Hérode. L'ange n'a pas été envoyé annoncer cette nouvelle parmi des notables, mais dans une famille inconnue de Galilée, chez une jeune fille qui s'appelait Marie. Un homme, Joseph, de descendance royale, c'est vrai, la maison de David, c'est-à-dire lointain descendant de David, mais qui n'a rien à voir avec son lointain ancêtre en termes d'influence et de renommée. Et on apprendra que Joseph était un artisan, un charpentier qui vivait dans cette petite ville. Dieu s'apprête à annoncer la venue du Messie et les premières personnes à apprendre la nouvelle sont un jeune couple modeste et inconnu. Troisième surprise maintenant, comment Dieu allait-il envoyer son Messie, ce roi tout-puissant ? Est-ce qu'il allait l'envoyer avec une armée de chevaux venus de nulle part, un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux ? Vous savez, on les voit à peine, ils sont derrière. Les chevaux qui arrivent, tout d'un coup, une arrivée majestueuse. Eh bien, loin de là. N'aie pas peur, Marie, verset 30, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Verset 33, il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, c'est-à-dire sur Israël. Son règne n'aura pas de fin. Et là, on imagine le lecteur ou l'auditeur du premier siècle, le grand roi, le Messie, c'est un bébé. Et qui plus est, le fils d'une simple jeune fille galiléenne. Mais ce n'est pas fini. Et on arrive à la plus saisissante de toutes les surprises. Le miracle. Marie pose une question toute simple, mais pleine de bon sens. Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? Elle savait comment on faisait les bébés. Marie était fiancée, mais pas encore mariée. Elle n'avait pas encore eu de relation intime avec son futur époux Joseph. Et il est probable que le mariage n'était pas encore pour tout de suite. D'où l'incompréhension de Marie. Et là, la réponse de l'ange est stupéfiante. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. La plupart des Israélites de l'époque s'attendaient à ce que Dieu aille chercher un homme quelque part pour en faire son Messie, comme ça avait été le cas à l'époque pour le roi David, que Dieu est allé trouver et qu'il l'a désigné comme son Messie. Mais ici, l'ange dit à Marie qu'elle accouchera d'un enfant qui n'est pas le fruit de la génération humaine ordinaire, mais d'un nouvel acte divin de création. Et là, c'est bien de mettre les choses au clair. Contrairement à ce qu'on imagine très facilement, la naissance virginale de Jésus, comme on l'appelle, n'est pas le produit d'une vision du monde ascétique ou prude, qui estimerait que la sexualité est quelque chose de sale et d'impur, et que donc il n'est pas question que le Fils de Dieu soit venu par ce moyen. Dieu n'est pas contre la sexualité qu'il a lui-même instituée pour le couple humain, comme on le voit dès le début de la Bible. Le sens essentiel du miracle de la naissance virginale, c'est que Dieu intervient dans l'histoire et il vient lui-même poser le fondement d'une nouvelle humanité. Son fils ne naît pas selon la volonté de l'homme, mais strictement de l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui vient apporter comme une rupture dans la génération humaine et qui dit « Là, c'est la nouvelle humanité. » Par la naissance virginale, Dieu manifeste que ce bébé qui naît n'est pas seulement le fils de Marie, mais c'est aussi son fils unique qui existe depuis toujours. Dieu se révèle dans ce texte comme un Dieu qui surprend, un Dieu qui ne rentre pas dans nos schémas, dans nos catégories, un Dieu qui peut manifester les choses les plus glorieuses dans les circonstances les plus humbles. Et si on regarde un peu plus loin, le cantique de Marie, au verset 46 à 55, on voit que Marie, elle a compris cela. Elle est consciente de ces surprises divines. Le cantique de Marie, ce n'est pas « qu'il est mignon, qu'il va être mignon, mon doux petit Jésus, blotti entre le bœuf et l'âne ». Ce n'est pas ça du tout. Je cite à partir du verset 48, « Il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré. Sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches, les mains vides. » On est loin d'un petit chant tout doux, tout mignon. Marie sait que Dieu promettait depuis des siècles d'intervenir dans le monde et de remettre à leur place tous ceux qui se dressaient contre Dieu, qui cherchaient à dominer les hommes, qui érigeaient l'injustice, la corruption et la violence en institution. Et quand elle entend l'ange lui dire, au verset 32 et 33, « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Pour elle, c'est clair, elle connaît les Écritures. Elle comprend que Dieu vient d'annoncer que le temps est venu. Le Messie va venir, et c'est elle qui va lui donner naissance. Dieu est un Dieu qui ne rentre pas dans nos schémas. Et Noël, c'est aussi l'occasion de se souvenir de cela. Une première leçon que nous pouvons tirer de ce texte, c'est que les valeurs de Dieu ne sont pas nos valeurs naturelles. La grandeur n'est pas ce que l'on croit. La puissance n'est pas là où on le pense. Aux yeux des hommes de l'époque, la puissance, elle était où ? Elle était du côté avant tout de l'Empire romain, ça c'était vraiment la puissance, et dans une moindre mesure du côté du pouvoir juif vassalisé, donc qui était soumis à l'Empire romain. Mais Dieu envoie naître dans ce modeste foyer galiléen celui qui sera revêtu d'une véritable puissance, une puissance qui changera le monde pour toujours. Donc les apparences sont souvent trompeuses. Mais si Dieu bouleverse ainsi nos a priori, notre tranquille gestion du monde et de nos vies, c'est aussi pour montrer que, même s'il tolère pour un temps le fait que ce sont des hommes qui sont rebelles à lui, qui gèrent le monde pour l'essentiel, qui ne se préoccupent pas de lui, eh bien, il garde malgré tout la maîtrise des événements. Il n'a pas perdu sa souveraineté sur la création. Et il décide, en envoyant Jésus, de donner ce nouveau départ à l'humanité. Et il le fait non pas en réponse à une initiative de notre part, mais par grâce. Et c'est le deuxième point, une grâce souveraine. Toute la Bible enseigne la grâce, c'est-à-dire le fait que Dieu prend l'initiative de faire du bien à l'homme. Non pas en réponse à ce que l'homme fait, mais selon son propre choix. Et ici, nous en avons un exemple frappant. Tout d'abord, si on prend l'exemple de Marie, une jeune femme qui est certes remarquable par ses qualités de foi et de courage, et on va le voir, mais au fond, une femme comme une autre. Pourquoi est-ce que Dieu est allé choisir cette jeune femme galiléenne-là ? On ne le sait pas. Ce choix lui appartient. Et c'est un véritable choix. Verset 30, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Il n'y a pas d'autre explication. C'est ce qu'on dit lorsqu'on affirme que la grâce de Dieu est souveraine. Une image un petit peu comparable, un petit peu, c'est celle de l'adoption. Les parents adoptifs n'adoptent pas un enfant en réponse à un acte de l'enfant en leur faveur. On n'a jamais entendu parler de parents qui disaient à un enfant « Ah, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Maintenant, pour te remercier, on va t'adopter. » On n'a jamais entendu parler de ça. Il y a un choix qui est fait, le choix d'aimer. Et Dieu choisit d'aimer. L'amour de Dieu pour les hommes n'est pas une évidence, contrairement à ce qu'on peut croire. Selon la Bible, l'humanité s'est massivement détournée de Dieu. Elle a choisi de vivre selon ses idoles, en créant des dieux de toutes sortes à son image, des dieux primitifs ou des dieux très sophistiqués. Et quand je dis l'humanité, je parle de nous tous. Dieu aurait très bien pu prendre acte de cette rébellion et il aurait pu en rester là, ou il aurait même pu détruire la création d'un coup. Après tout, il est le créateur, il fait ce qu'il veut. Mais il a choisi d'aimer. Il a choisi d'aimer de sa propre initiative. Et ce choix d'aimer, on le retrouve partout dans la Bible. Il y a d'abord la création de l'univers et du monde que la Bible déjà présente comme un acte d'amour, non pas d'une nécessité pour Dieu, mais d'amour. Plus tard, il y a le choix d'un peuple, le peuple d'Israël, qui, un peu à l'image de Marie, n'était ni le plus nombreux ni le plus puissant à son époque. Et lorsqu'on regarde les hommes et les femmes que Dieu a utilisés pour déployer peu à peu son salut dans l'humanité, son plan de salut de l'humanité, on est frappé par le caractère ordinaire, très humain, de ces personnes. Aujourd'hui encore, le peuple de Dieu, le peuple qui se situe dans l'accomplissement d'Israël, c'est-à-dire l'Église, l'ensemble de tous les croyants en Jésus-Christ, est un peuple qui, par certains aspects, n'est pas si impressionnant que cela. Et sans doute que le choix de Marie est une manière aussi de nous rappeler cela. Dieu ne se laisse pas impressionner par nos tentatives un peu pathétiques de faire de nous-mêmes et de nos œuvres nos propres dieux. En choisissant une jeune femme de milieu modeste pour devenir la mère de son fils Jésus, en faisant naître son fils dans la pauvreté, loin des honneurs qu'il aurait mérités, Dieu nous rappelle que notre espérance, elle ne se trouve pas dans ses apparences humaines, dans ce qui frappe les yeux, mais dans la réalité de sa grâce. Et bien sûr, la suite de l'histoire de Jésus nous en dira beaucoup plus encore sur la manière dont sa venue, sa personne, son œuvre manifestent la grâce de Dieu. Si le Fils de Dieu est venu dans le monde, c'est précisément pour que nous puissions connaître cet amour de Dieu. C'est pour nous ramener à lui comme un berger va chercher ses brebis perdues. Mais dès ces premiers instants de l'annonce de l'ange à Marie, Dieu se révèle comme le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui a choisi d'aimer sans contrainte, le Dieu qui offre son amour aujourd'hui encore à Paris et ailleurs, heureusement, en 2013 et au-delà, en invitant chacun à croire à son Fils Jésus-Christ, en invitant chacun, chacune, ici présent, à venir à lui, si ce n'est pas encore fait. Mais l'amour de Dieu n'est pas un monologue. L'amour de Dieu invite au dialogue. Dieu n'a pas plaqué son amour sur Marie, il l'a invité à prendre part à son projet, par sa foi. Et c'est pour ça que Marie est pour nous un exemple de foi, et c'est mon dernier point. Au verset 39 à 45, on voit Marie rendre visite à sa parente Élisabeth. C'était peut-être une grande tante ou une cousine éloignée, on ne sait pas exactement. C'était d'ailleurs un voyage de plusieurs jours pour aller voir Élisabeth. Et Luc nous dit qu'Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste, celui qui annoncera la venue de Jésus, eh bien, elle a été remplie de l'Esprit-Saint en voyant arriver Marie. Autrement dit, elle a été comme saisie par la présence de Dieu. Et pour elle, c'est comme une évidence, l'enfant que Marie attend, c'est celui qui doit venir, c'est le Messie. Verset 43. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ?» Et elle poursuit par ces quelques mots, verset 45. « Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » C'est comme si, de la part de Dieu lui-même, Élisabeth encourageait Marie. Tu n'as pas cru en vain ce que Dieu a dit. Il le fera. Marie aurait eu tellement de raisons de douter de ce qu'elle a entendu, malgré même l'apparition de l'ange. Après tout, elle aurait pu toujours se demander après si elle avait rêvé, si elle avait halluciné. Le simple fait qu'elle a reconnu l'intervention de Dieu, c'est un premier acte de foi de sa part. Mais il y a aussi, et peut-être surtout, le fait que Marie a accueilli ce projet de Dieu pour elle. Elle a dit oui. Verset 38. Je suis la servante, l'esclave du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Et pourtant, Marie pouvait craindre tellement de choses. On a peut-être tendance à penser que ah, super, elle devait être tellement heureuse, mais elle se doutait bien que personne ne la croirait lorsqu'elle dirait qu'elle est devenue enceinte par l'œuvre du Saint-Esprit. Elle pouvait déjà s'imaginer les remarques sarcastiques. Et on voit dans l'évangile de Matthieu que même son fiancé Joseph, lorsqu'il entend parler de cette grossesse, il s'apprête à rompre avec elle. Évidemment, il n'imagine pas autre chose que la manière normale de devenir enceinte. Mais l'ange lui rend visite pour lui confirmer ce qu'il a déjà dit à Marie. Marie était une jeune fille non encore mariée. Dans une société très traditionnelle, elle sait que c'est toute sa vie qui sera bouleversée par cet événement. Mais Marie a choisi de faire confiance à Dieu. Elle a choisi de croire que son Créateur savait ce qu'il faisait et que ce qu'il fait est toujours bon. Elle a choisi de croire que ses promesses qu'elle connaissait depuis toute petite, hein, qu'elle avait entendues par les Écritures, faites par les prophètes, ce n'étaient pas simplement des légendes, mais c'était véritablement des promesses et qu'elles étaient là en train de s'accomplir. Croire que c'est Dieu qui est à l'œuvre, comprendre que son œuvre nous concerne directement, accueillir les projets de Dieu pour nous, même lorsqu'ils nous conduisent à un renoncement à la vie qu'on s'était imaginé, c'est ça aussi la foi. C'est un peu tout cela. C'est un courage, mais un courage de sortir des schémas de vie sur lesquels on se reposait, mais pas pour se jeter dans le vide, mais pour marcher à la suite d'un Seigneur qui nous surprend, c'est vrai, mais qui nous a déjà prouvé et qui nous prouvera encore son amour inépuisable. J'imagine que pour la très grande majorité, sinon la totalité d'entre nous, nous n'avons jamais reçu personnellement la visite d'un ange, hein, sait-on jamais. Mais Dieu nous appelle aussi, nous, aujourd'hui encore, à nous défaire de tout ce qui nous empêche de le suivre et à entrer dans ses projets d'amour et de paix pour nous. Et nous sommes directement concernés par cette annonce faite à Marie, parce que si Dieu a envoyé Jésus dans le monde, c'est pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous permette d'accueillir comme elle ses promesses et son amour, au risque que ça change toute notre vie. Prions. Merci Père pour l'exemple de Marie, merci pour sa foi, pour son courage. Donne-nous de lui ressembler un peu plus, en accueillant avec foi, avec courage, dans la paix, les projets que tu as pour nous, ces projets qui passent tous par ton Fils Jésus-Christ, qui ne trouvent de sens qu'en lui. Et merci parce que Marie a bien voulu permettre, ou plutôt être l'instrument de Dieu pour cette magnifique incarnation par laquelle, Père, tu as envoyé ton Fils Jésus parmi nous. Merci pour ce oui par lequel tu nous as donné ton oui. Que nous puissions être ceux qui, en retour, te disent également oui. Au nom de Jésus. Amen.